Bonjour, je voudrais que nous fassions une lecture dans Hébreux chapitre 11 et verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Jésus-Christ, je te prie, mon Dieu, de tout mon cœur, afin que cette parole que j'annonce ce soir ne soit pas mal comprise. Qu'elle ne soit pas prise comme quelque chose de la superstition, mais qu'elle soit prise véritablement comme une loi spirituelle. Merci Seigneur Jésus, aide-nous mon Dieu, aide chaque auditeur à bien comprendre. Que ton nom soit béni mon Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, rien n'a de valeur aux yeux de Dieu à part ce qui est fait dans l'amour et dans la foi. Nous savons ce que Paul dit de l'amour dans 1 Corinthiens 13. Et au sujet de la foi, j'aime particulièrement le livre des Hébreux. La foi n'a rien à voir avec le ressenti. On peut le comprendre intellectuellement, et puis ensuite, quand on se trouve dans le combat, l'oublier. La foi n'a rien à voir avec le ressenti, car le ressenti, c'est le monde des sens, c'est-à-dire de la chair. Or, nous ne pouvons pas, en tant que disciples de Jésus, avoir la foi dans quelque chose, à moins que cette chose soit écrite dans la Bible. La Bible nous parle de deux mondes, le monde visible et le monde invisible. Et pour toucher au monde invisible, nous devons avoir la foi selon les Écritures. Sinon, on se met en danger. La Bible nous dit très clairement qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire on n'a pas à lutter contre des gens. Alors on le sait, nous autres chrétiens intellectuellement, on le sait, mais quand on se trouve dans l'épreuve, on a tendance à voir la personne qui est en face de nous comme quelqu'un contre laquelle on doit lutter. Eh bien, on a tort. Tout ça, ça se trouve dans Éphésiens 6, 12. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, contre des gens, mais contre des esprits mauvais. Elle nous dit que dans notre condition mortelle, cette écriture, nous marchons dans la chair. C'est vrai que nous sommes dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. 2 Corinthiens 10, 3. Alors nous sommes dans la chair, ça signifie que nous sommes des esprits qui vivons dans un corps de chair. On est des esprits éternels qui vivons dans un corps de chair qui a été créé. Notre corps de chair voile un esprit, le nôtre. Notre corps de chair, c'est comme un voile. Et notre esprit est en guerre. Ce qui fait que chacun d'entre nous est impliqué dans une guerre. Notre esprit est impliqué dans une guerre contre d'autres esprits que nos yeux de chair ne peuvent pas voir, que nos oreilles ne peuvent pas entendre. Bref, que nous ne perçons, on ne les perçoit pas avec nos sens physiques, les esprits. Sentir un mauvais esprit, c'est encore la chair. Parce qu'on sent, on n'a pas à ressentir, on a à croire. Cette guerre, elle détermine le succès ou l'échec de notre vie ici-bas, mais aussi, à la fin, elle déterminera où nous allons passer l'éternité. Si nous avons été vaincus par les esprits mauvais ou pas. Si on était vaincus, si on les a suivis, eh ben, évidemment, ceux qui marchent avec le diable, ils ne pourront pas hériter le royaume de Dieu. Alors, une chose importante à faire ici-bas, c'est d'apprendre à se battre en vue de gagner cette guerre. Par ailleurs, la Bible dit que nous sommes des soldats. Et les soldats, ils vivent dans des casernes. Autrefois, le langage dans... Avec le langage biblique, on disait dans des forteresses. Ça signifie quoi? Ça signifie que puisque nous vivons dans la chair, nous avons besoin d'une forteresse physique et matérielle, un lieu paisible où nous pouvons nous réfugier pour prendre des forces. Bien sûr que l'Éternel est notre forteresse d'esprit, mais nous ne sommes pas que des esprits, nous sommes aussi dans la chair. Et nous ne pouvons pas, à cause de la chair, lutter indéfinitivement. parce qu'on se fatigue, on se lasse, on se décourage. On a besoin d'un temps pour reprendre des forces et pour guérir nos blessures, les blessures que nous avons lorsque nous sommes en train de guerroyer. Aussi, pour écouter le roi des rois, il est bon de nous cacher dans notre forteresse. Alors Jésus lui-même, il a emmené ses disciples dans des endroits isolés pour qu'ils puissent se reposer et se renouveler. Alors, où est votre forteresse? Je me rappelle, le frère Arthur Alamand avait prêché sur mon lieu secret. Je vais revenir là-dessus. Pour moi, ma forteresse, remplie de la paix de Dieu, mon endroit pour entendre, pour entrer dans la paix, mon endroit pour avoir un temps de prière, pour lire les Saintes Écritures, pour trouver ma propre guérison, pour grandir dans le Seigneur, eh bien, c'est mon bureau. C'est mon bureau. Notre chambre à coucher, à mon épouse, à moi, est aussi une forteresse. Et c'est là que Dieu nous donne énormément. Pendant notre sommeil. Psaume, je crois, psaume 127, 2. Il en donne autant aux siens pendant leur sommeil. Alors, pour que mon bureau et notre chambre à coucher soient toujours une forteresse propre, spirituellement je parle, hein, bien sûr qu'on nettoie notre bureau, qu'on nettoie mon bureau et notre chambre à coucher, mais là je parle spirituellement. Pour que mon bureau et notre chambre à coucher soient toujours une forteresse spirituelle propre, nous avons beaucoup appris en lisant le texte au sujet de la première Pâque en Égypte, vous trouvez ça dans Exode 12. Exode 12, je vais vous le lire parce que c'est très très beau. Exode 12, verset 7, 13. On prendra de son sang, le sang d'un agneau, sans tache, et on en mettra sur les deux montants et sur le linteau de la porte. Les montants, c'est les deux côtés, et le linteau, c'est la partie d'en haut de la porte. Alors, on prendra de son sang, on en mettra sur les deux montants et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera, donc où on mangera l'agneau. Cette même nuit, on mangera la viande et on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain, des herbes amères. Vous ne mangerez pas à mi-cuit ni bouilli dans l'eau, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et ensuite, s'il en reste quelque chose le matin, vous le jetterez au feu. Voici comment vous le mangerez, une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main, vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés en Égypte, depuis les humains jusqu'aux bêtes, ainsi j'exécuterai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis le Seigneur Yahvé. Le sang sur le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Lorsque je verrai le sang, je passerai sur vous. Et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai l'Égypte. Amen. Alors, le Seigneur passait par là et il détruisait, vous avez compris le texte, Dieu est un esprit, Dieu est esprit. La question est-ce qu'un esprit, et puis il envoyait un ange destructeur qui venait au nom de l'Éternel. Est-ce qu'un esprit a besoin d'une porte pour sortir ou entrer dans une maison? Non. Alors pourquoi il fallait oindre de sang les portes? Eh bien parce que les portes sont un symbole. Au temps de Moïse, les maisons étaient des maisons d'esclaves. Et sans doute, elles étaient un peu comme les maisons des cases d'Afrique, en Afrique, dans la brousse. C'était une pièce avec une porte. Il n'y avait sans doute pas des ouvertures comme dans nos maisons actuelles, aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une autre chose aussi qui a changé. Le sang de Jésus a été versé une fois pour toutes, et nous n'avons pas besoin de mettre du sang sur nos portes. ni sur nos ouvertures. Par contre, dans la loi de sainteté, il y a un texte dans Exode 40, verset 1, et il faut que je vous le lise aussi. C'est très important. Exode 40, verset 1. Alors, le Seigneur dit à Moïse, « Le premier jour du premier mois, tu monteras la demeure, la tente de la rencontre. » Au verset 9 et 10, « Maintenant, tu prendras l'huile d'onction et tu conféreras l'onction à la demeure et à tout ce qui s'y trouve. Tu la consacreras avec tous ses ustensiles et elle sera sacrée. Tu conféreras l'onction à l'autel des holocaustes et à tous les ustensiles. Tu consacreras l'autel et l'autel sera sacré. » Alors, on a aussi Hébreux 10, 11 à 18 qui affirme que le sang de l'agneau est inutile. Ce n'est pas le sang d'un agneau ou le sang de Jésus. Le sang de Jésus a coulé une fois pour toutes sur la croix et pour le pardon de nos péchés. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? Eh bien, l'huile, qui est le symbole du Saint-Esprit, c'est-à-dire de Jésus. Nous croyons que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Nous savons que Jésus est Dieu. Donc, le symbole de Jésus, le symbole de l'Esprit, eh bien, c'est l'huile. Et Ésaïe parle de l'Éternel qui levait son bâton comme en Égypte et qui ôtait le fardeau du dessus de notre épaule et le joug qui était sur nos coups, parce qu'il y avait un joug, il y avait une puissance d'oppression, eh bien, c'est la graisse, c'est-à-dire l'huile, qui faisait éclater le joug. Donc, Ésaïe, longtemps après Moïse, reprend de nouveau l'histoire, n'est-ce pas, d'un geste à faire, et c'était l'onction d'huile, comme l'onction d'huile dans le tabernacle avait une signification symbolique qui représentait les choses de Dieu. Et l'huile fait éclater le joug, c'est-à-dire si vous avez un joug sur votre vie, quelque chose qui vous pèse, une oppression, une difficulté spirituelle, eh bien, une onction d'huile fera éclater le joug. Ésaïe 10, 26, 27. Alors, il faut oindre toutes les ouvertures de nos maisons, c'est-à-dire de nos forteresses, afin de mettre un signe sur nos maisons. Ce n'est pas un rituel dont nous devons devenir dépendants, non. Mais par contre, nous devons être dépendants de Jésus et de la direction que nous donne le Saint-Esprit par la Bible. Si cela se faisait par les hommes de Dieu, il n'y a aucune raison que cela ne se fasse pas aujourd'hui. Alors nous utilisons le nom de Jésus et nous parlons fort au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous plaçons un peu d'huile sur les montants droite et gauche des portes, sur les linteaux. Et nous faisons la même chose sur les fenêtres. On met un peu d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ. On les sanctifie, vous voyez. Et puis on parle fort, distinctement, en disant « Je oins cette maison au nom du Seigneur Jésus-Christ ». Et puis, nous demandons au Père de sceller la maison. C'est ce que c'est sceller, mettre un sceau. Quand on envoie un conteneur en Afrique, le conteneur, il est scellé. C'est-à-dire que ce qui est dedans, ça ne peut pas être volé. Ça ne peut pas entrer et ça ne peut pas sortir, c'est dedans. Il y a un sceau. Eh bien, nous devons demander au Père de sceller la maison. Cela, on l'a toujours fait, il y a des années qu'on le fait dans la communauté. Mais voilà ce que dit le Seigneur maintenant en plus. Nous ne pouvons pas ordonner aux démons de sortir, de quitter notre maison, si nous demandons d'abord à Dieu de la sceller. On doit les chasser avant de oindre toutes les issues et avant de demander au Père de sceller la maison. On ne peut pas chasser les démons une fois que c'est scellé. Ils ne peuvent pas sortir. Alors, pratiquement, il nous faut oindre toutes les portes, les fenêtres, toutes les issues, sauf une. C'est par là que sortiront les esprits mauvais et puis Une fois qu'ils sont dehors, alors on peut oindre la dernière porte, la dernière issue. Et nous demandons là, à ce moment-là, au Père, de sceller la maison. C'est clair ? Mais avant tout cela, vous devez examiner votre maison. Vous devez retirer tous les objets impurs. Parce que les démons ont le droit légal de s'accrocher aux objets impurs. Donc s'ils ont le droit légal de s'accrocher là et que vous ne jetez pas ces objets impurs, que vous ne les brûlez pas, eh bien, ils ont le droit de rester, même si vous les chassez au nom de Jésus, c'est la loi. Ils ont un droit légal. Une chose encore. Vous devez oindre votre maison à l'intérieur. J'ai appris, par les sorciers qui se sont convertis en Afrique, que vous devez aussi oindre vos miroirs. Les miroirs ne sont pas diaboliques, mais tout au travers des siècles, les sorciers, les sorcières, ils ont utilisé, et ils utilisent encore, les miroirs comme porte d'entrée pour leur projection astrale. Je sais, vous allez dire que c'est de la folie, dans notre monde, à l'heure actuelle, les gens ne croient plus aux esprits. Et, ils sont atteints par toutes sortes de mots, de trucs, d'histoires, ils croient ce qu'ils veulent, nous croyons dans ce que la Bible dit, et voilà, si vous n'y croyez pas, vous êtes libre, hein, vous arrêtez l'enregistrement, puis c'est bon. Mais les miroirs sont des portes aussi. Et pour les dames, n'oubliez pas les miroirs qui sont dans votre trousse à maquillage. C'est des portes. Ensuite, oignez même le cordon qui va de votre ordinateur à votre box. Oignez le fil qui va de votre téléphone à la prise. Oignez les fils de la télévision. Toutes ces choses sont des portes. Alors, il faut être prudent. Soyez bien sûr que vous avez laissé une porte ouverte sans huile. Et puis, une fois que vous en êtes bien sûr et que vous avez tout oint et que vous avez sorti les objets impurs, les choses mauvaises, de péché, de trucs, et puis que vous les avez brûlés, alors là, vous pouvez chasser les esprits mauvais au nom du Seigneur Jésus-Christ et briser la malédiction qu'ils ont implantée dans votre vie et dans celle de votre conjoint et de vos enfants et même des animaux de votre maison. Ordonnez-leur de partir au nom de Jésus-Christ fermement par la porte ouverte, la porte où il n'y a pas d'huile, et puis ensuite, oignez cette dernière porte en priant le Père de purifier et de sceller la maison. Et puis ensuite, vous remerciez le Seigneur, vous entrez dans la louange. Maintenant, si des gens viennent chez vous et s'ils ont une vie impure, le scellé de votre maison sera brisé. Parce que quand ils entrent avec leurs esprits. Si votre propre vie n'est pas purifiée, alors vous brisez le scellé. Par vos allées et venues, vous brisez les scellés. Dans les deux cas, vous n'aurez pas besoin de oindre toutes les issues. À chaque fois qu'une personne, par exemple, rentre chez vous, il vous suffira de oindre les portes, juste les portes. Une chose importante, vous n'avez pas l'autorité spirituelle de oindre et de sceller la maison de quelqu'un d'autre, à moins qu'il vous en ait donné l'autorisation. Et une autre chose, c'est inutile de oindre la maison d'un incroyant. Et je pense que vous avez compris pourquoi. Ils font sauter le scellé immédiatement, par leur péché, par leur incrédulité, tout ça. Il se peut qu'une personne qui a une vie impure vive dans votre maison. Alors ça va être une bataille continuelle. Mais au moins, si vous avez une chambre seule, purifiez-la et scellez-la. Et puis aussi, demandez à cette personne de ne pas y entrer. Ou alors, il faut recommencer à chaque fois. On a affaire à un monde d'esprit. Il y a des règles. Vous devez oindre aussi votre voiture et la sceller. Nous devons toujours nous souvenir que nous sommes des esprits qui habitons dans un corps. et que les esprits contraires qui sont dans les gens, ils nous voient et ils nous veulent du mal. Pas les gens, les esprits qui sont en eux. Alors ils les inspirent et c'est pourquoi on doit prendre spirituellement en charge notre part dans le combat spirituel. Nous qui vivons dans la chair, nous ne combattons pas selon les principes de la chair, mais selon les principes spirituels. C'est une guerre d'esprit. Et si nous le faisons, Dieu fera sa part. Si nous ne le faisons pas, Dieu n'est pas tenu de faire sa part. Il attend de nous que nous soyons armés, comme c'est écrit dans l'Épître aux Éphésiens. Et si nous le sommes, si nous sommes armés, si nous sommes revêtus de l'armure, et que nous faisons ce qui est à faire avec foi, le Seigneur nous promet que toute arme forgée contre nous sera sans effet et que toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, nous pourrons la condamner et que ça, c'est l'héritage des serviteurs de Dieu et que tel est le salut qui leur vient de lui. Ça, c'est dans Ésaïe 54, 17. Mais Dieu n'est pas tenu de tenir sa promesse si nous ne faisons pas notre part dans cette guerre. Par exemple, si nous introduisons chez nous un objet abominable, eh bien, on aura des problèmes. On peut lire Deutéronome 7, 26. Deutéronome 7, 26. Tu n'introduiras pas une abomination chez toi afin que tu ne sois pas, comme elle, frappé d'anathème. Tu la traiteras comme une horreur et une abomination car elle est frappée d'anathème. Tout le chapitre 7 nous dit ce que sont ces choses abominables. Lisez-le. Alors la question, est-ce que nous sommes sous la loi? Non. Mais nous sommes dans une guerre d'esprit. Être sous la loi, ça veut dire que pour pouvoir être pardonné, il nous faut le sang, n'est-ce pas, des agneaux, des colombes et tout ça. Mais nous n'avons pas, nous ne sommes pas sous cette loi sacrificielle parce que nous sommes sous Jésus-Christ qui a versé son sang pour nous, mais nous sommes quand même sous la loi au sujet du faut pas voler, faut pas tuer, faut pas mentir, faut pas. Vous comprenez, les 10 commandements. Et puis, il y a des lois aussi naturelles. La loi de l'apesanteur, toutes sortes de lois. Hein? Eh bien, c'est pas parce qu'on est en Jésus-Christ que la loi de l'apesanteur, ça marche plus. Donc, on est encore sous la loi de l'apesanteur. On est aussi sous la loi des choses de l'esprit. Il y a des lois dans le monde de l'esprit. Et il faut les observer, il faut connaître. Nous sommes dans une guerre d'esprit, alors il nous faut savoir qu'un objet impur ne peut pas être purifié, il doit être brûlé. En Afrique, on brûle des gris-gris, des toutes sortes de choses au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la délivrance des sorciers, des gens qui sont sous leur influence. Et pour ce qui est de la nourriture, on remercie Dieu à table avant de manger, c'est la moindre des choses. Mais nous devons aussi sanctifier les aliments au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont mis dedans. Timothée 4, 5 nous enseigne au sujet des aliments qu'ils sont sanctifiés par la parole de Dieu et par la prière. Mais il faut penser à prier pour qu'ils soient sanctifiés, purs, purifiés. Et alors là, vous pouvez manger de tout. Du halal, du kasher, il n'y a aucune importance, si vous êtes suffisamment fort spirituellement et dans votre conviction intérieure. La parole de Dieu, qui sanctifie nos aliments, c'est notre confession de foi prononcée par l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est ça la parole de Dieu, nous proclamons la parole de Dieu. Nous bénissons cette nourriture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous la sanctifions. Et notre prière est efficace. Alors, il faut savoir que la guerre spirituelle, elle commence quelque part. Elle commence dans nos pensées. Je vais vous lire Éphésiens 6. Éphésiens 6. J'ai une Bible avec plein de bouts de papier, si bien que ça m'empêche de tourner les pages rapidement. Excusez-moi. Galates, Éphésiens 6 et versets 10 à 12. Écoutez bien. Au reste, soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable. Il y a donc des manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre des principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. » Et ensuite, il nous dit de prendre toutes les armes. Et ce n'est pas contre des gens donc, qu'on a lutté, mais contre des esprits et contre des esprits qui ont séduit des gens. Alors la question est donc, dans quel lieu le monde spirituel et le monde physique peuvent se rencontrer ? À quel point, à quel niveau ils se rencontrent ? Eh bien, on trouve quelque chose dans 2 Corinthiens 10, 3, 6. En effet, si c'est bien dans la chair que nous vivons dans la chair, on est dans un corps humain, charnel, ce n'est pas selon la chair que nous combattons spirituellement. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair. Cependant, elles ont le pouvoir, du fait de Dieu, de démolir des forteresses. Nous démolissons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous nous emparons de toute pensée pour l'amener captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Comment ça on peut s'emparer des pensées pour les emmener captives à Jésus-Christ ? Comment on fait ça ? Comment on fait ça pratiquement ? Comment on peut emmener des pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ ? Le monde spirituel et le monde physique se rencontrent dans votre tête. C'est le champ de bataille dans votre âme. Et les esprits ont la capacité, tout en étant à l'extérieur de vous injecter des pensées et des émotions dans votre tête. C'est pourquoi ce verset nous dit que notre responsabilité, c'est notre responsabilité de ramener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Pour un disciple de Jésus-Christ, il y a 3 sources de pensées. Vous avez vos propres pensées. Deuxièmement, vous avez des pensées démoniaques qui vous sont injectées par des mauvais esprits, injectées dans vos pensées, des pensées démoniaques. Et troisièmement, vous avez le Saint-Esprit qui met des pensées en vous. Vous voyez, 3 sources de pensées pour vous. Quand le Seigneur vous parle, il parle à votre esprit sous forme de pensée. Alors votre devoir, c'est de scruter vos pensées. On doit être conscient des pensées qui circulent dans notre esprit. Quelle est la source ? Il y en a 3. Par exemple, quand vous vous levez le matin, est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Vous avez passé une nuit, voilà, vous avez dormi, puis vous avez des pensées de tristesse, vous broyez du noir. Ça vient d'où ? Le monde n'a pas changé, il est comme quand vous vous êtes couché. Mais c'est que vous avez eu une ou plusieurs visites pendant la nuit. De mauvais esprits qui vous ont mis des pensées et des émotions en vous. Et vous ne devez pas attendre pour contre-attaquer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous devez contre-attaquer. Et notre épée, c'est la parole de Dieu. Vous vous levez, vous vous campez bien sur vos 2 pieds, vous levez vos mains, vous dites « Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à ces esprits démoniaques de partir de là, ôtez vos pensées de ma tête, je ne les accepte pas, au nom de Jésus. » Et puis vous citez un texte, une parole de Dieu, comme celle-ci par exemple. « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. » Ça, c'est votre épée. C'est la parole de Dieu. Wow. Et vous les mettez en pièces détachées. Comprenez cela. La guerre spirituelle se rencontre dans le monde matériel, dans votre tête. La guerre spirituelle se trouve là, se rencontre là, dans le monde matériel, pour pouvoir y passer du monde spirituel au monde matériel, c'est dans votre tête que ça se passe. Ça se passe dans vos pensées, dans vos émotions. C'est comme ça que les esprits démoniaques arrivent à détruire des mariages. C'est comme ça que les esprits démoniaques arrivent à détruire des relations entre des gens. Alors vous devez discipliner vos pensées et être bien certain de la source. Quelle est la source de cette pensée que j'ai là ? C'est quoi ? C'est votre plus grand défi que vous n'aurez jamais à relever, le plus grand. Ce défi, c'est de marcher en obéissance à ce verset de 2 Corinthiens 10, 5, qu'on a lu tout à l'heure, 2 Corinthiens 10, 5, au sujet de « Vous devez renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu » et amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment notre responsabilité. Que Dieu vous bénisse. Je vous révélerai d'autres choses plus tard. Il y a encore d'autres moyens, il y a encore d'autres choses à faire. Mais déjà, si vous commencez là, eh bien, vous êtes dans la victoire. Après, il y a d'autres choses encore que je vais vous enseigner plus tard. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je sais que c'est étrange comme prédication. Et je sais que ça va peut-être choquer quelques esprits cartésiens ou quelques esprits critiques. Mais je te prie pour que les gens qui écoutent ça aient un moment de lucidité, qu'ils soient libérés de l'influence de ces esprits mauvais pour avoir un moment de lucidité pour reconnaître que c'est bien dans ta parole. Merci Seigneur Jésus de nous permettre d'être de bons soldats et de ne pas nous embarrasser avec les choses de la vie et de lutter en ton nom Jésus avec l'épée de la parole. Merci mon Dieu. Amen. Amen. À bientôt mes frères et sœurs, à bientôt. Dieu vous bénit.